c'était pas une époque de vacances et c'était avec un film. Alors peut-être que les gens viennent plus sur des films que sur des livres. Mais en tout cas, c'est vraiment un honneur et un grand plaisir de l'accueillir parce que c'est quand même une grande figure sur les questions du handicap avec beaucoup d'humanité et beaucoup de générosité, beaucoup de vie personnelle engagée sur ce sujet et aussi des propositions qui sont faites, des propositions concrètes parce qu'on n'est pas là simplement pour parler en l'air des questions du handicap. Mais aussi pour voir concrètement comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses. Voilà. Donc, quand la proposition m'a été faite par Jean-Louis Touraine, qui est ici présent, député du Rhône, grand professeur de médecine et qui lui aussi a de hautes fonctions nationales qui tournent sur la santé et bien entendu aussi en partie sur le handicap. Donc, quand il m'a fait cette proposition, Jean-Louis Touraine, je me suis dit oui, c'est une bonne idée, on va réinviter Pascal Jacob, c'est un plaisir de le recevoir sur Lyon. Donc, je voulais vous dire qu'ici présent, il y a quand même des personnes fort intéressantes qui sont réunies et que je voudrais quand même particulièrement saluer parce que avec une variété assez incroyable qui montre aussi ce que représente Pascal Jacob par votre présence. Donc, je salue un peu dans le désordre, je vous ai parlé de Jean-Louis Touraine, mais il y a aussi Maryse Lépuyati, qui est quand même la défenseure des droits sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et qui s'engage spécialement sur le handicap. Il y a des représentants de l'ARS, dont Marie-Hélène Le Sen, qui est donc la directrice de l'autonomie sur l'ARS. Je voulais saluer aussi Jean-Baptiste Richardier, qui se cache là-bas tout à fait au fond, mais qui est quand même le fondateur d'Handicap International. Et donc, voilà, c'est une association qui est quand même très importante pour la ville de Lyon et pour tous les Lyonnais. Donc, merci aussi de votre présence. Il y a une élue du 7e arrondissement, Marie-Madeleine Fiers, qui est ici présente. Je salue aussi Madame Tabé. Elle est toute surprise. Ouais, mais quand même, elle travaille avec moi à la MDMPH. Nous comptons beaucoup l'une sur l'autre. Nous travaillons bien ensemble. Elle préside la CDA avec moi de la MDMPH. C'est pas anodin. Elle est très active sur toutes les questions de l'autisme. Donc, sa présence aussi est importante pour moi. Et puis, je voudrais dire aussi qu'il y a une quantité d'associations qui représentent tous les styles des handicaps, tous les handicaps. J'ai vu qu'il y avait Odinéo, il y a donc ex-ARIMC, Une Souris Verte, l'ALDSM, Valentin Huy, Handicap Guinée, Bien Vieillir dans son quartier, ça c'est un autre style d'association, 7e arrondissement. Handicap Réussir Formation, Avenir Dysphasie Rhône, Atout10, la FNAT, AAA, Ambition Autisme Avenir, Sésame Autisme, Les Chiens Guides Aveugles de Lyon et du Centre-Est, CLASS, qui est la coordination lyonnaise des associations de personnes sourdes. Donc vous voyez, c'est des handicaps extrêmement variés, plus, allez-y, et l'ALJED, pardon, parce que ça, c'était pas marqué. Donc il y a. Et. La PHPP aussi, ben voilà, ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de dire. Plus il y a des établissements, il y a, enfin, vous voyez, le milieu hospitalier, etc. Voilà. Donc, réunis autour de Pascal Jacob et pour discuter avec vous. Et puis, on peut peut-être dire aussi Handisport Lyonnais, après tout, avec votre présence. Voilà, Handisport. Donc, c'est important d'être ici tous ensemble. Quand j'ai vu le titre aussi de Pascal, de son livre Liberté, égalité, autonomie, je me suis dit oui, c'est vrai, ça correspond exactement à ce que nous recherchons sur la ville de Lyon, dont je suis adjointe, sur la métropole où je suis conseillère à la politique du handicap et ce qu'on essaie parfois de faire avec parfois des incompréhensions à la MDMPH, ici, dont je suis coprésidente avec le département du Rhône dans une organisation un peu particulière. C'est la seule en France qui est organisée de cette façon. Voilà. Je voulais dire que, bon, vous allez voir ce livre, je ne vais pas parler très longuement, mais c'est vrai que l'autonomie, c'est notre but, c'est le but de la ville de Lyon. Vous avez vu qu'on a reçu, je le dis quand même, hein, le premier prix européen de la ville accessible pour l'année 2018, qui est un prix qui est donné pour l'ensemble de nos politiques, c'est-à-dire aussi bien sur la petite enfance que sur l'éducation, que sur la culture, le sport, les RH. On est à 8% aujourd'hui de personnes en situation de handicap employés sur la ville de Lyon, ça représente 850 personnes. Chacun compte pour un, hein, quand on travaille sur le handicap, je le dis souvent. Et donc, ça ne tombe pas du ciel, hein, d'avoir 8% de personnes en situation de handicap dans nos RH. C'est la construction d'une politique et c'est une attention continuelle. Dès qu'on relâche, dès qu'on ne recrute pas, dès qu'on ne suit pas, le chiffre peut baisser. Et donc, du côté de la métropole, on était en retard, mais à l'heure actuelle, on vise les 6% en 2020 à la fin du mandat. On est déjà à 4,5-5%. Et donc, on a beaucoup progressé ces derniers mois. Donc voilà, on peut dire que tout le monde est dans les starting blocks. Par exemple, sur la ville de Lyon, j'ai aussi créé un ensemble de référents. Aujourd'hui, il y a 13 référents sur le handicap. Dans chaque service, il y a un référent handicap. Et donc, aujourd'hui, quand j'ai besoin de chiffres, quand ces gens ont cette pensée qu'ils doivent s'occuper des personnes en situation de handicap dans leurs diverses activités. Et donc, du coup, c'est toute la ville, en fait, qui est aujourd'hui en politique transversale. Je tiens beaucoup à ça, l'idée d'avoir une politique transversale. Du côté européen, on dit c'est le mainstreaming, hein, c'est tout le monde qui est dedans et qui s'y met et qui travaille ensemble. Et donc, on est arrivé aujourd'hui à ça sur la ville de Lyon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des problèmes. Par exemple, il y a un peu de retour en arrière sur la concertation sur les projets urbains qui ne dépendent pas de moi, sur lesquels je m'excite beaucoup. Je sais très bien que voilà, ce n'est pas facile et qu'il faut arriver à convaincre les services et puis aussi tous les gens qui fabriquent les projets urbains, les urbanistes, les architectes qui ont leur œuvre, qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas entendre parler d'une bande lisse, enfin bon, vous voyez, pour faire passer les gens, etc., qui ont aussi bien des valises que des fauteuils, hein, parce que ça touche très largement la population et pas simplement les personnes en situation de handicap. Donc je connais les faiblesses, je sais très bien que sur le handicap, il y a toujours des choses qui manquent, je le sais. Mais bon, en même temps, on a quand même beaucoup progressé. Je suis élue depuis 2008 et je vois tous les progrès qui sont faits. Dans le livre de Pascal Jacob, il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée d'un de ses témoins et qui dit « L'autonomie, c'est savoir gérer ses dépendances ». Ça m'a énormément plu, cette phrase. Je trouve qu'elle est vraiment intelligente et qu'elle elle fait penser à l'autonomie d'une façon particulièrement forte et qui permet de s'en sortir par le haut, je peux dire, hein, dans cette façon de voir les choses. Et donc, c'est une personne en situation de handicap que tu as interviewé, hein, Pascal. Je me suis dit, ça, c'est vraiment fort de parler de cette façon-là. On est toujours, en fait, sur le fait du rasoir. Hein. D'un côté, reconnaître les personnes en situation de handicap comme des personnes qui ont droit à l'autonomie, à une vie comme les autres, etc. Et en même temps, qui ont quand même aussi des besoins particuliers qu'il faut entendre. Et donc, il faut arriver à être sur ces deux niveaux que l'on mène ensemble. Et j'ai trouvé que cette phrase, elle résumait, en fait, extrêmement bien cette façon de voir les choses. Voilà. Donc, je ne vais pas prolonger. C'est Pascal qui va nous dire des choses plus intéressantes. Mais encore une fois, c'est une grande joie de vous accueillir tous ensemble ce soir pour qu'on ait cette réflexion commune autour de la question des handicaps et de mieux voilà, y répondre. Merci.
Monsieur Jean-Louis Touraine, député du Rhône.
Merci, merci Thérèse. Bonsoir, chers amis. Je vais essayer d'être le plus bref possible, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, c'est bien évidemment Pascal Jacob, le président de Handidactique, et un cher ami, que vous allez entendre avec un immense plaisir. Donc je vais essayer d'être bref, après vous avoir tous salué en vos grades et qualités, dans toutes vos fonctions éminente, mais Thérèse l'a déjà fait pour moi. Je vais peut-être juste singulariser une personne, si vous me permettez, parce que c'est un symbole important. C'est Jean-Baptiste Richardier qui a initié Handicap International, parce que cette association née à Lyon a reçu le prix Nobel. Or, je pense que c'est une belle revanche pour un pays et une ville où on va le voir, il y a encore insuffisances dans la prise en charge du handicap pour un pays qui n'a pas été le plus grand précurseur en matière d'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est quand même bien qu'il y ait eu une association qui ait eu mondialement ce rayonnement, cette reconnaissance, qui prouve bien que quand on s'y consacre, on peut très vite passer de un peu retardataire à devenir tout à fait fer de lance au niveau mondial. Et donc, c'est ce à quoi nous sommes exhortés aujourd'hui par Pascal Jacob dans plusieurs des domaines. Et je vais en dire simplement deux paragraphes. Le premier, c'est avant Pascal Jacob. Avant, excusez-moi de parler de mon expérience personnelle, je suis médecin, plusieurs d'entre vous le savez, et quand j'ai fait mes études de médecine, eh bien, on n'apprenait rien sur le handicap. Pendant 6 ou 7 ans d'études, rien, rien. Et dans la vie extérieure à la faculté, on n'apprenait guère plus. Et puis, tout de suite après mes études, j'ai été faire un stage pour apprendre la recherche médicale, d'abord à Édimbourg, pendant 6 mois, puis ensuite aux États-Unis pendant 1 an et demi. Et les 2 fois, tout jeune médecin, en arrivant, j'ai dit, comment ça se fait ? Dans ces villes, il y a beaucoup plus de handicapés qu'à Lyon. Comment ça se fait ? Ils ont des problèmes que nous n'avons pas en France ? Et je me suis renseigné. Non, non, la seule chose, c'est qu'en France, on ne les voyait pas. Ils étaient tous en institution. Ils n'étaient pas visibles. Alors que là-bas, on les voyait dans les écoles, on les voyait au travail, on les voyait même faisant des activités dans les hôpitaux pour aider, pour contribuer à la vie et s'insérer en milieu ordinaire. Même l'autisme était pratiquement pas enseigné à l'époque en France, alors que là-bas, c'était déjà pris en charge dans plusieurs des pays anglo-saxons. Et donc, la réflexion venant, on voyait qu'il y avait 2 approches. Celle de dire, il faut leur donner les meilleures chances d'insertion dans la vie, en milieu ordinaire, de l'école jusqu'à l'âge avancé, ou on les relègue dans des lieux où, certes, on fait du mieux possible, il y a des personnels dévoués et ils sont bien pris en charge. Sauf que, où est la dignité humaine quand on est privé de liberté ? Parce qu'en institution, on est privé de liberté. J'en sais quelque chose. J'ai été, pour des raisons d'éducation interne, de l'âge de 9 ans jusqu'à 13 ou 14 ans. Ce n'est pas le meilleur souvenir que j'ai de ma jeunesse. Parce qu'on est privé de liberté. Juste pour ça, pour le reste, tout était parfait. On était nourris, on nous passait des films, on était bien traités. Mais on n'avait pas de liberté. Et ça, je me suis dit, les pauvres, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir une vie épanouie. Et j'ai perçu cet impératif qu'il y a d'aider toute personne en situation de handicap, que ce soit un handicap seulement physique, ou qu'il y ait une composante psychique, ou que ce soit le sens le plus large possible de la situation de handicap, mais que toutes ces personnes aient des chances de pouvoir avoir une destinée qu'elles maîtrisent. Elle-même, et non pas dépendante d'une institution, d'un organisme, d'un État bienveillant, d'une administration. Et donc, on a vu le chemin parcouru. Eh bien, moi, j'ai fait cette réflexion. Pascal Jacob, il a fait beaucoup mieux que la réflexion, parce que lui, il s'y attelait. Et lui, il a fait avancer les choses, et il continue à le faire. Vous avez entendu parler d'un film précédent, d'un livre qui succède à un autre livre. Il y a aussi un DVD. Il y avait même un rapport qui a été donné à la ministre de la Santé précédente. La nouvelle a à nouveau utilisé les compétences de Pascal Jacob. C'est pour vous dire qu'il est au cœur de l'action. Et il a constaté, comme moi, ses insuffisances. Mais il en a même trouvé d'autres. Et j'avoue que, juste avant la publication de son livre, il est venu m'expliquer tout cela. Il m'a même donné les premières feuilles non encore imprimées. Et que j'ai été horrifié de découvrir ce qui se passait, même dans nos établissements de santé. Et ceci a donc été immédiatement transmis à la Fédération hospitalière de France, dont je suis le vice-président, pour qu'elle s'empare, elle aussi, de ce sujet, que tous les directeurs d'hôpitaux de France corrigent ce qui mérite d'être corrigé. Parce qu'en effet, quelqu'un en situation de handicap, malgré toute la bienveillance des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, malgré la compréhension des directeurs d'hôpitaux, malgré tout ce qui est fait, eh bien, si on se met à leur place et qu'on perçoit ce qu'il en est, eh bien, des fois, ça frôle la maltraitance. Maltraitance non volontaire, pas du tout. Personne n'a l'impression de faillir à sa tâche. Mais les hôpitaux d'aujourd'hui, quelquefois, sont obligés à des gains de productivité, sont obligés d'être productifs, d'être rentables, comme on dit, plus que d'être humains, malheureusement. Et donc, quand le temps est compté, quand le personnel soignant doit, dans une journée, faire plus de temps d'acte, quel frein représente la personne qui met du temps à se mettre debout, à se déshabiller, à se prêter aux examens qu'il faut réaliser aux malades. Et donc ce frein-là, eh bien, a tendance à indisposer parfois telle ou telle personne. Et le résultat, ça en est que les personnes en situation de handicap vivent mal la façon dont elles sont parfois rabrouées. Et plusieurs des exemples qu'ils citent font dresser les cheveux sur la tête. Parce qu'ils sont effectivement pas honorablement traités. Donc, tout l'objectif d'aujourd'hui, c'est, je crois, ce à quoi il nous exhorte, et il va nous le dire, c'est en quelques années de rattraper tout cela et devenir un des pays fer de lance, un des premiers pays, un pays exemplaire, pour montrer que non seulement il y a des droits qui sont déjà dans notre arsenal législatif, ils sont présents, mais que, mieux que cela, ces droits sont de fait utilisés. Ça, ce n'est pas encore le cas. La plupart des lois sur le handicap, je vous rappelle qu'une des premières a été celle de Simone Veil dans les années 70, mais depuis, il y en a eu plusieurs. Eh bien, ces lois ont beaucoup amélioré la situation en théorie, mais en pratique, eh bien, certains n'osent pas demander tel ou tel droit, d'autres trouvent trop compliqué d'y accéder. Les troisièmes font une tentative et puis on leur dit mais qu'ils sont en marge du dispositif, qu'ils ne rentrent pas tout à fait dans le cadre administratif. Ils se découragent. Ils ne cherchent pas à savoir si on pourrait vaincre tel ou tel obstacle. Et donc, la réalité, c'est que, de fait, ils n'ont pas une vie suffisamment épanouie. Ils n'ont pas les mêmes chances. Ils n'ont pas une égalité de destin avec les personnes non handicapées, et ça, ça n'est pas supportable. C'est d'autant moins supportable que quand on voit le travail qu'ils réalisent, de l'école jusqu'à un âge avancé, eh bien souvent, ce travail-là, lui, il est exemplaire. Regardez seulement Stephen Hawking, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le décrire, qui a vécu 40 ans avec une maladie de Charcot. Une maladie de Charcot à évolution très lente, heureusement pour lui, et heureusement pour nous, pour le monde entier. Tellement sont importantes ses découvertes, ses analyses, ses réflexions. Eh bien, le handicap qu'il avait est un handicap très sévère. Eh bien, il a pu faire beaucoup mieux que ce que presque tous ici nous pourrions faire dans l'astrophysique et dans beaucoup d'autres disciplines, tellement son génie était grand. Et moi, je peux vous dire que sans aller jusqu'à des exemples aussi brillants que Stephen Hawking, regardons ceux qui travaillent autour de nous. Généralement, ils y consacrent plus d'énergie que les bien portants. Pourquoi ? Parce que eux ont une sorte de revanche à prendre. Ils veulent prouver, ils veulent montrer que dans l'emploi, ils vont faire parfait. Et cette énergie qu'ils y mettent devrait enlever toute réserve aux employeurs le jour où ils les emploient. Si bien qu'ils ne devraient plus être employé parce que la loi stipule qu'il faut qu'il y ait X pourcentage dans telle ou telle entreprise, mais parce que c'est un plus par rapport aux autres. Et puis enfin, qu'ils soient en milieu courant, c'est bien pour eux, mais c'est bien pour les autres. Dans une salle de classe, s'il n'y a personne qui ait telle ou telle limite physique ou autre, alors les enfants ne sont pas habitués à cela. Et quand ils deviennent adultes, ils deviennent intolérants. Parce qu'il faut être confronté très jeune à la diversité des situations pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir l'apprécier, pour pouvoir s'y habituer. C'est une faculté d'adaptation qui est évidemment meilleure chez l'enfant que chez l'adulte avancé. Donc, tout ça, c'est important. Moi, je terminerai simplement en disant qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'il faut quelquefois inverser les propositions sur l'enseignement handicapé. et les sources de réflexion. On a eu trop coutume de dire que c'était le professeur qui enseignait les élèves. Il faut des fois demander aux élèves d'enseigner les professeurs et aux élèves de noter les professeurs, parce qu'ils ont beaucoup de choses à leur dire et c'est eux qui leur permettront de se perfectionner. On a beaucoup dit que les parents éduquent leurs enfants, c'est vrai. Mais quand les parents se mettent à écouter leurs enfants, ils apprennent beaucoup de choses, beaucoup. Eh bien, pour les personnes en situation de handicap, le jour où nous mettons les écouter, nous devenons meilleurs, nous apprenons des choses, et leur exemple, le bénéfice qu'ils apportent, est incomparable, dans tous les domaines, à l'école, au travail, dans le sport, dans tous les domaines, on a vu le bénéfice qu'ils apportaient. Donc, avec des personnes comme Pascal Jacob, je suis sûr qu'on peut enfin leur donner la place qu'ils méritent, c'est-à-dire un exemple de dignité humaine. Merci.
Eh bien, moi, je suis très ému. Je suis d'autant plus ému parce que j'aime bien votre ville. Cette belle ville, forte de l'exemplarité de ce qu'elle nous a montré, de ce prix. Je suis venu beaucoup de fois et à Lyon, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et j'ai eu l'occasion aussi des honneurs de cette mairie qui est toujours aussi accueillante. Merci Thérèse, merci chère Thérèse à toi, parce que d'inviter un petit bonhomme comme moi, sans toi, on n'aurait peut-être pas réussi ce qu'on va faire. Merci à tous ceux qui ont communiqué pour cette réunion, et je voudrais les remercier parce que on a eu beaucoup, beaucoup de messages de beaucoup d'amis qui avaient envie d'être là, et puis les vacances, les petits-enfants, les uns et des autres n'ont pas pu faire. Merci Jean-Louis. Jean-Louis, c'est vous qui m'épaulez depuis que j'ai rejoint la FHF, dont vous êtes le vice-président, et votre épaule est pour moi un soutien énorme. Et le travail que nous faisons ensemble a du sens, parce que non seulement vous me prenez par la main, mais vous emmenez beaucoup d'autres personnes, par votre expertise et votre expérience, vers quelque chose qui est on ne peut plus humain. Merci à vous tous d'être là, mais je voudrais dire aussi un grand merci pour le fidèle soutien que m'apporte tous les jours Jean-Pierre Demany et toute son équipe de la Fondation OVE, une fondation lyonnaise qui aujourd'hui a un rayonnement national. Liberté, égalité, autonomie. Il doit manquer quelque chose, je crois. Pourquoi ce titre ? La liberté, dans une vie où on est dépendant, ça devrait être imaginable. Tout le monde aspire à être libre. Jean-Louis en a parlé tout à l'heure. L'égalité, c'est beaucoup plus dur. Égalité, c'est le droit commun pour tous, même pour les personnes vivant avec un handicap. Alors, pourquoi autonomie ? Et où est la fraternité ? Pas de fraternité ? Alors, pourquoi ? Une autonomie, aussi petite soit-elle. Eh bien, parce que, en fait, la fraternité est le troisième pied qui légitime la liberté et l'égalité. Construire, donner, apprendre, rechercher, l'autonomie est un acte fondamentalement fraternel qui valorise la personne vivant avec un handicap est celui qui lui apporte de l'autonomie. Ah oui, j'oubliais. Je n'aime pas dire personne handicapée. Je n'aime pas dire personne en situation de handicap. J'aime dire personne vivant avec un handicap. Parce qu'il y a le mot vivant entre personne et handicap. Et que le mot vivant, c'est pas exister avec un handicap. Ce livre, c'est le fruit d'une écoute des personnes vivant avec un handicap. J'ai eu une chance absolument extraordinaire de rencontrer, de visiter, de travailler avec de très nombreux amis qui avaient tellement de choses à me dire. Et comme je le dis souvent, Jean-Louis l'a un peu dit tout à l'heure, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré mes enfants. Et ils m'ont tant appris. Mais c'est grâce à eux que j'ai eu envie d'écouter, questionner leurs amis. J'ai jamais été déçu, bien au contraire. J'ai entendu les plus beaux messages, les plus belles éloges de la faiblesse. Comme le dit si bien notre ami Alexandre Jolien. Rencontrer Aurélie, écouter son histoire, comprendre son incroyable labyrinthe où l'on dépend de toutes sortes de personnes, où l'on dépend de toutes sortes de lois, où l'on dépend de toutes sortes d'organisations. On dépend toujours de celui qui décide à votre place. Même si on a envie de décider. Même si on a envie d'être regardé autrement. Même si on est cantonné à vivre à l'écart. Et là, plus que jamais, je n'entends pas le mot liberté. C'est celui qui décide qui est libre. Avec Aurélie, Benoît, Édouard, Noémie, Vincent et tant d'autres, j'ai la chance de prendre le temps. J'ai eu la chance de prendre le temps d'être avec eux, de les voir vivre, de les voir réagir à l'intérêt que je portais sur eux. Cela n'a pas été facile pour eux comme pour moi. Nous avions besoin de nous connaître, de nous apprivoiser, de nous faire confiance. Ils ont si souvent raconté leur vie sans que personne ne s'y intéresse ou même l'écoute. Alors, quand on arrive à faire fondre la glace et que le dialogue s'instaure, il faut écouter et entendre l'incroyable, l'insoutenable, une vérité qui montre une volonté immense de vivre quand même. Avec tous et chacun, il y a un point commun qui revient tout le temps. Dans chaque phrase, je veux vivre la vraie vie. Je ne suis pas un malade pestiféré, j'ai le droit d'être avec les autres. Là, je dois vous avouer que je n'ai jamais cessé de penser à Nelson Mandela qui nous rappelait que la souffrance des hommes tenait à trois choses essentielles. La discrimination, l'injustice et la solitude subie. Ne pas avoir accès à la vraie vie, c'est la discrimination. Ne pas avoir droit accès au droit commun, c'est l'injustice. Être obligé de vivre à l'écart, c'est très souvent la solitude subie. Eh bien non. Quel que soit le niveau des handicaps, des merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, et dans elles, il y a un feu sacré de vivre, même avec un handicap lourd, même avec une grande dépendance. Alors avec de nombreux amis, et nombreux sont là, souri avec eux parce que nous avons travaillé ensemble. On a écouté, on a entendu et on a cherché à proposer des réactions. Non pas pour donner un peu d'espoir, parce que j'aime pas l'espoir. L'espoir, ça fait attendre. Je préfère trouver de la passion, ça fait agir. J'ai aussi entendu que la personne vivant avec un handicap fait vivre son handicap à ceux qui l'entourent. Et ce n'est pas une personne seule qui est handicapée, mais bien une famille, des amis, des bénévoles, des professionnels. Je me souviens très bien, dans « Il n'y a pas de citoyen inutile », de ce que nous disait la maman d'Yannick, qui vivait auprès d'elle, de lui, depuis le début de sa vie. Il avait 41 ans. 41 ans d'une vie enfermée dans cette famille où elle se croyait propriétaire. Et elle me disait qu'elle avait presque vécu seule avec son enfant et qu'elle faisait bien la différence entre trois choses. Entre les personnes qui accueillaient Yannick, les personnes qui accompagnaient Yannick et les personnes qui épaulaient Yannick et elle-même. Accueillir, c'est bien, c'est insuffisant. Parce que on a souvent et facilement tendance à croire que ça suffit. On a été les bras ouverts. Et puis, une fois qu'on est reparti, on a un peu oublié. Accueillir, c'est un peu éphémère. Il faut avoir les bras ouverts, parce que ça va nous permettre, à un moment donné, peut-être, de accompagner. Accompagner, c'est difficile. Hein. Accompagner, c'est ça n'a rien à voir avec le mot « garder ». Accompagner, c'est apprendre à quelqu'un. C'est apporter à ce quelqu'un quelque chose qui va faire qu'il ait accès à la vraie vie. Et comment on fait quand on accompagne pour avoir accès dans la vraie vie ? Eh bien, il faut apprendre à être accompagné par un non-professionnel. C'est le seul moyen pour une personne vivant avec un handicap de ne pas être mis à l'écart. Car si on vit avec chacun, si on vit avec tous, eh bien, on est moins seul. Mais si on accueille, si on accompagne, il faut aussi épauler. Laissez-moi vous dire que quand Romain est né, et que j'ai entendu le médecin dicter la lettre du diagnostic de Romain, entendant, il dictait au dictaphone, et nous étions assis avec devant son bureau, et il parlait à son dictaphone pour nous dire qu'il ne marcherait pas, qu'il ne parlerait pas, qu'il ne pas ceci, qu'il ne pas cela. Et là, il faut nous épauler. Il faut trouver une main. Il faut trouver quelque chose qui va faire que on ne va pas se cantonner à aider Romain, mais tout ce qui se passe autour. Et je pense que là, l'épaulement et comprendre. Si on m'avait dit, il y a 30 ans, 33 ans, au moment où j'ai appris l'infirmité motrice cérébrale de Romain, qu'il fallait que je cherche son autonomie, que je l'aide à devenir autonome, au lieu de le surprotéger, de le surmédicaliser, ben, j'aurais probablement évité. Et puis vous verrez comment je vous raconterai comment j'ai changé d'avis. Alors, nous avons écrit un premier livre, Il n'y a pas de citoyen, ce fut pas de citoyen inutile. Ce fut un premier chantier, où à travers les côtes d'abord, mais aussi une grande prise de conscience, qu'il nous fallait changer de paradigme. Si nous voulions avancer vers ce que attendent une grande majorité des personnes vivant avec un handicap. Grâce à Martine Carillon-Couvreur, nous avons réussi avec l'Assemblée nationale, tu te rappelles Christian, des moments assez extraordinaires, et nous avons travaillé pour construire quelque chose. Nous avons écouté et nous avons dit à chacun qu'il était indispensable d'entendre en direct ce qu'avaient nous dire Noémie, Richard et tant d'autres. Et c'est avec Alain Cordier, Denis Pifteau, Yves de Chaise-Martin, Emmanuel Hirsch, Paulette Guinchard, Dominique Vaillard, Jean-Pierre Demagny, Christian Henri de Ronchabot et beaucoup d'autres que je peux pas. Je pense à Sibylle, je pense à tout ça. Et voilà, on s'est tous mis au travail. Nous avons écouté et nous avons essayé de nous dire qu'est-ce qui nous manque là. C'est une forme de colonne vertébrale de ce qu'il faut faire pour vivre en France avec un handicap et comment il faudrait progresser. Et puis, c'était le moment où il m'est arrivé, à moi personnellement, je tiens à le dire, parce que ça a aussi fait changer le bouquin. Moi, j'étais atteint d'une sclérose en plaques et j'ai passé 4 mois et demi à l'hôpital l'année dernière. Et à la même époque, j'étais complètement aveugle. Et ce qui m'avait choqué, c'est que quand on devient aveugle dans l'hôpital où j'étais, eh bien, il y a une chose qui est dommage, c'est qu'on a pensé que la première chose à faire, c'était de me mettre des couches pour éviter d'avoir à m'emmener. C'est dommage, parce que quand on parle de dépendance, il faut mieux pas enfoncer. Eh bien, cette effroyable année que j'ai vécue nous a permis de marier avec vous, avec chacun d'entre vous, la réalité. Alors, grâce à vous tous, je m'en suis en partie sorti. Je tombe encore beaucoup dans la rue, mais ça va. Alors, on a conjugué avec, je me rappelle, une personne qui était très près de moi, qui était Alain Cordier, qui me disait et qui me rappelait à l'hôpital. Tu as écrit ton chapitre. Tu as relancé ceux qui devaient, n'est-ce pas Jean-Pierre? Ce livre est aussi un travail commun avec des amis qui ont contribué et qui nous ont apporté leur expertise pour accompagner. Les personnes qui nous avons écouté, et particulièrement Aurélie, Édouard et Noémie, je les revois assez souvent. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée à ce livre. Ils sont très fiers de nous avoir allumé cette flamme. Mais les choses sont toujours aussi difficiles pour eux. Et nous avons beaucoup, beaucoup à travailler, et pas seulement dans le soin, comme l'exprimait Jean-Louis tout à l'heure. Édouard est maintenant en Bretagne. Aurélie est toujours dans la ferme avec Benoît, dans les Ardennes. Noémie est à Nantes. Mais ils me mettent une pression colossale pour ne pas que nous arrêtions de travailler ensemble. Ils ont toujours le sentiment de ne pas être dans le droit commun, de ne pas être dans la vraie vie et malheureusement d'être trop souvent tout seul. ils veulent décider. Et décider, c'est quoi? C'est d'avoir le choix. Est-ce que nous, aujourd'hui, dans nos gestes du quotidien, nous proposons un choix qui permette à quelqu'un de décider librement? Ou est-ce que on se suffit de dire qu'il faut décider sans donner le choix? Si on n'a pas le choix, on ne décide pas. Vous êtes d'accord? Eh bien, je crois qu'il est trop important de comprendre que décider, même si c'est une toute petite chose, vous donner un exemple simple d'un enfant que je connais bien, qui est Clément. Clément, deux solutions. Ou je choisis le film qu'il va prendre pour s'endormir et j'ai aucune chance qu'il se couche et qu'il le regarde, ou je le laisse démonter la bibliothèque de tous les DVD et qu'il trouve le film qu'il veut, et là il va s'y accrocher et ça va être génial, un vrai moment. Mais c'est lui qui aura décidé. L'autonomie, aussi petite soit-elle, est quelque chose qui donne une énorme force qui s'appelle la dignité. Et je me rends compte qu'aujourd'hui encore, on n'a pas encore compris que on décide trop souvent la place et qu'on ne laisse pas le choix. Mais on est tous, les uns et les autres, extrêmement fautifs. Parce qu'on n'a pas eu le bon regard. Laissez-moi vous raconter deux minutes l'histoire de Romain. Un soir, je ramenais Romain dans le centre de vie Passerelle, à côté de Paris. Nous étions dans la chambre. Il y avait Romain que l'on passait de sa coquille du fauteuil à la coquille du lit. Il y avait Daphné, qui était l'aide du vie du week-end. Il y avait Gloria, qui était l'AMP, aide-soignante, qui nous accueillait, et moi. Et puis, je me trouve devant, et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma valise? Et qu'est-ce que j'entends derrière moi? Une voix d'homme qui me dit, ben quoi, elle est là, ta valise, papa. C'était la première fois de ma vie que j'entendais la voix de Romain. Romain était rouge comme une tomate parce qu'il ne s'était jamais entendu parler. Gloria et Daphné étaient en petit tas d'émotions, se demandant ce qui s'était passé. Mais moi, j'ai été surtout très inquiet d'avoir pas compris qui était Romain. Un homme beaucoup plus autonome que je puisse me l'imaginer, parce qu'il ne parlait pas, parce qu'il ne pouvait pas faire les gestes pour nous montrer ce qu'il pouvait faire. Et qu'est-ce que moi, j'ai fait de la vie de mon enfant? Et là, j'ai compris ce qu'était que la plus petite autonomie soit-elle, et qu'il fallait que nous soyons les uns et les autres en recherche permanente de cette autonomie qui donne la dignité, qui donne la force. Je voudrais dire aussi que c'est dans le quotidien qu'on apprend l'autonomie. Richard nous disait à l'Assemblée nationale, vous ne vous rendez pas compte ce que c'est que pour moi d'aller soulever une feuille et de vous la montrer. C'est un geste extrêmement difficile qui mérite énormément d'énergie. Et pour être avec tout le monde, il faut être témoin de cet effort, de cette énergie. Noémie, tétraplégique, trachéotomisée, me disait « Je dois maîtriser mes aides techniques par un apprentissage toujours adapté à mon handicap. » Noémie, aujourd'hui, est, en étant tétraplégique et trachéotomisée, avait été définie, enfin orientée par la maison départementale du handicap comme étant en masse plus. Masse plus, c'est masse avec un déplafonnement de soins. Ce qui représente un budget annuel de 129 000 euros par an. Noémie a décidé de vivre seule dans son appartement à Nantes. Noémie, on a investi avec Noémie dans un bras. Et Noémie, aujourd'hui, est dans son appartement, seule, avec une aide possible 24 heures sur 24 à l'aide d'un système d'appel. Et elle coûte à l'État 69 400 euros. Parce qu'elle a eu envie, à un moment donné, d'être indépendante et surtout d'être libre. Noémie nous m'a appris qu'il n'y avait pas de liberté sans autonomie. Et je voudrais dire que cette construction de l'école de l'autonomie, qui est l'objectif de liberté, égalité, autonomie, c'est à nous d'être des déclencheurs d'autonomie. Et pourquoi ? Parce que pour être autonome, il faut en avoir envie. Édouard a eu envie d'être autonome le jour où il a rencontré sa copine flûtiste. Et là, le fait de réussir à l'aimer a fait que toute sa vie a changé et l'amour est devenu un déclencheur d'autonomie. La passion peut devenir un déclencheur d'autonomie. Et aller chercher ce déclencheur d'autonomie, être un déclencheur d'autonomie, est aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Et c'est probablement la plus belle fraternité et plus belle construction possible de l'autonomie. Au travers de tout ce livre et de tout ce travail, on va essayer de sortir ce soir quelques éléments essentiels. À travers la parole des personnes, nous avons essayé de nous dire qu'il fallait donner un deuxième souffle à la loi de 2005. Et sans oublier une phrase, personne ne choisit de gaieté de cœur de ne pas être autonome. Alors, on a essayé de construire 5 ambitions. La première ambition, c'est de valoriser. On n'est pas bien parti pour. Car pour valoriser, il faudrait qu'institutionnellement parlant, on valorise les personnes. Institutionnellement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons ? On ne décrit les personnes qu'à travers ce qu'elles ne savent pas faire. Et c'est la loi 2005 qui l'a écrit. J'étais avec Jean-François Chaussy quand, avec Christian, nous avons mis le point là-dessus en comparant avec ce qui se faisait dans de nombreux pays. Et quel ne fut ce moment d'émotion terrible D'ailleurs, essayez de faire votre curriculum vitae pour vous faire embaucher dans une entreprise en disant tout ce que vous ne savez pas faire. Ça pourrait peut-être marcher, mais j'ai très peur. Eh bien, la société aujourd'hui a besoin qu'on valorise. Et c'est ça qui est le premier élément le plus fort. Et cette notion de valorisation, elle sera portée parce que nous allons tout construire fraternellement avec chacun. Et nous allons apporter à chaque personne la possibilité de retrouver sa dignité en disant ce qu'elle sait faire. D'ailleurs, nous l'avons tous bien souvent vécu. Évaluer, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire donner de la valeur. Si on ne donne pas de valeur, ça s'appelle dévaluer. C'est vrai? Eh bien, il faudrait peut-être que nous arrivions tous les uns et les autres à donner de la valeur. Et je suis certain que cela va considérablement changer parce que passer d'évaluer à évaluer, c'est peut-être la clé de voûte qui va changer notre regard. Et notre approche, pour que demain, on ne se serve pas administrativement de ce qu'on ne sait pas faire, pour vous décrire, mais beaucoup plus. Et ça, cher Jean-Louis, c'est un début de l'éthique d'un regard nouveau. Qu'est-ce que l'on va faire? Comment peut-on le faire? Je crois que c'est possible et... C'est un chantier sur lequel il faut que nous nous battions. 90% des personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, vivant avec un handicap, nous avons envie d'être valorisés et de ne plus être regardés comme n'étant que des incapables. D'ailleurs, vous allez voir que c'est la porte qui nous ouvre vers un monde qui, le jour où on valorisera, donnera à la capacité de la richesse de devenir une société plus active, plus réactive, plus innovante. Et là, nous serons, parce qu'on aura valorisé la différence, et on va se sentir obligé de se comporter différemment. Valoriser la richesse de la différence, c'est comme le disait Jean-Louis dans la classe, quand Édouard ou d'autres, quand Vincent est dans une classe, et bien, il change la vision de la classe. Il change complètement. Et on a une autre approche. Et d'ailleurs, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. J'étais avec Romain, en train de me promener. Romain et Clément avaient des fauteuils et la directrice d'une école vient me voir et me dit « Il faudrait que vous veniez expliquer » dans la classe à qu'est-ce qu'ils ont vos enfants et pourquoi ils sont dans un fauteuil, parce que nous on n'a pas su les cacher, on n'a pas été très bon mais on n'y est pas arrivé. Et elle me dit ben vous allez venir leur expliquer, et je réponds à cette dame mais non c'est pas moi qui vais venir, c'est Romain. Mais elle me dit mais Romain ne parle pas. Alors, je lui dis, mais vous allez voir qu'il sait communiquer tout à fait différemment. j'apprends à la dame que quand Romain fermait la main, c'était pour dire non, et quand il ouvrait la main, c'était pour dire oui. Et j'ai emmené Romain à la date prévue pour aller dans la classe et rencontrer les élèves. Et j'ai mis les mains des élèves et j'ai expliqué comment parler avec Romain. Et j'ai expliqué qu'il fallait poser des questions binaires avec des oui ou des non. Il fallait savoir si Romain comprenait le mot souffrance, tous les mots possibles et imaginables. Et là, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que les enfants, très très vite, ont compris comment il fallait parler avec Romain. Et Romain s'est défendu comme un lion, mais comme un lion, et a raconté tout ce qu'il avait à raconter. Et les enfants posaient des questions. Ce qui m'a le plus ému, c'est que quand j'ai rencontré les parents de ces enfants dans l'école, aucun enfant n'a dit à ses parents que Romain ne parlait pas. Ça m'amène à vous dire notre deuxième ambition. C'est associer les personnes vivant avec un handicap. Nous ne pouvons pas continuer à travailler du chapeau sans eux. Ce sont eux les vrais moteurs. Et si nous parlons avec des personnes de ce qu'il faut faire pour la personne vivant avec un handicap sans les personnes handicapées, on le fait contre eux. Et nous n'avons pas les bons arbitrages. Et on ne faut pas se raconter d'histoires. Leur capacité à nous expliquer ce qu'ils veulent, quel que soit le mode de communication, il faut nous servir de leurs paroles, de leurs vœux, de leurs attentes pour construire une société accueillante et accompagnante. Et c'est avec eux que l'on va s'enrichir. Ce n'est pas suffisant de valoriser et d'associer. Il y a une troisième valeur que nous voulons mettre en place, c'est responsabiliser. On n'est pas là pour être inutile. Il faut que nous soyons des acteurs responsables. Et je peux vous dire très sincèrement que quand Romain est allé lui-même présenter le handicap à ses classes d'enfants primaires, d'enfants de classe primaire d'enfants, j'ai eu le sentiment de sa fierté. Les deux mois qui ont suivi, on avait écrit, un feu sacré était né dans la tête de Romain. Alors, je pense que responsabiliser, c'est essentiel. Ils peuvent être des acteurs essentiels de notre vie. Car très souvent, Alain Cordier nous le rappelle chaque fois que nous pouvons l'entendre, c'est que l'exemple d'une personne vivant avec un handicap est très souvent ce qui nous permet à une société tout entière de bénéficier de très bonnes idées. Car la personne vivant avec un handicap grossit les défauts, les fait apparaître directement et on doit l'entendre. Et je pense qu'on fera énormément de progrès si nous avons la capacité de les entendre, mais de les responsabiliser aussi, parce que si nous ne leur donnons pas des responsabilités, on va être dans une situation de très grande difficulté. Noémie, aujourd'hui, est au CNCPH, la patronne de la commission Accès aux soins. Le CNCPH, c'est le Comité national consultatif des personnes handicapées. Et j'en suis très, très, très fier. Et bien sûr, je suis là pour l'épauler. Elle a quelqu'un pour l'accompagner. mais elle est accueillie partout. Responsabiliser aussi, c'est de montrer... Je suis allé acheter une pièce de voiture chez un grossiste dans une ville à côté de Paris, et il y avait derrière le comptoir un monsieur ayant une trisomie 21. Et comme il y avait trois personnes, c'était le comptoir, et il y avait trois, il fallait aller un peu plus loin pour voir un autre, et on m'a dit non, il faut voir le chef. Et le chef, c'était lui. J'ai demandé ma pièce. 3 minutes après, il a donné les ordres pour que ça se fasse. Mais vous ne savez pas, j'étais tellement ému. J'ai été demandé, mais comment ça se passe? Et ils m'ont dit, vous savez, c'est notre fleuron. Toute l'équipe, c'est leur fleuron. Puis, vraiment... Tellement ému, j'étais voir le patron de cette entreprise. Et vous savez pas ce qu'il m'a dit? Eh bien, grâce à ce jeune garçon, on a simplifié toutes les procédures de l'entreprise, ça nous coûte beaucoup moins cher et on a fait des choses beaucoup plus simples. On faisait beaucoup de choses inutiles. Et le progrès que vous avez apporté ce garçon était fantastique. Je dois vous avouer qu'il y a des gens qui font 120 km pour aller voir ce grossiste, rien que maintenant, pour le rencontrer. Et il a, en le responsabilisant, en ayant, mais je pourrais aller à Bacqueville-en-Caux où le patron d'un cabinet d'assurance est dirigé par des personnes vivant avec handicap. Un centre commercial à côté de Dieppe. Responsabiliser, c'est aussi être capable d'accompagner quelqu'un sans décider et faire à sa place. Et c'est reconnaître toutes les capacités à être acteur et responsable dans la société. La quatrième ambition que nous avons dans ce livre, c'est de bien comprendre que l'accompagnement, c'est une aide et ce n'est pas une décision à la place. Et ça, ce n'est pas simple. C'est très difficile. C'est très difficile quand on est un professionnel, quel qu'il soit, de soins, d'accompagner. Accompagner, par exemple, dans le soin. Accompagner quelqu'un, c'est le rendre acteur de son soin. Et s'il est acteur de son soin, il sera 100 fois plus facile à soigner. Par contre, si on décide qu'il n'est pas capable d'être responsabilisé dans son propre soin, eh bien, on ne va pas l'accompagner. Comme ça, on fera et il obéira. Eh bien, il n'y a pas de soin qui soit une obéissance. Il n'y a de soin que la capacité que l'on aura de faire de la personne une envie de se faire soigner ou de se soigner elle-même. Cet accompagnement est aujourd'hui un métier qui doit valoriser et associer l'accompagnant et l'accompagné, car l'autonomie n'est pas la victoire que de la personne vivant avec un handicap, c'est le fruit commun des deux, et c'est une très, très belle victoire qu'il faut construire. La cinquième ambition, c'est d'évaluer. Je vous ai dit tout à l'heure, évaluer, c'est comme l'annonce du handicap, c'est quelque chose qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, l'annonce du handicap, on l'entend une fois, puis après on l'entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le connaissez, ça. Eh bien, l'évaluation, Elle est nécessaire parce que nous avons tous un tout petit peu trop de tendance pour avoir les aides les plus puissantes. Allez, on ne va pas dire le mot, à surdévaluer la personne, comme ça on est certain qu'elle aura la meilleure AH, la même meilleure PCH. Alors on arrive avec des dossiers qui arrivent. Et je me demande comment m'arrivent les équipes des départementales à faire des choix dans des dossiers qui, de temps en temps. Et vous savez pourquoi on surévalue tout? Alors, il y a un moyen très simple, c'est de se dire comme ça, je vais prendre le pire et comme ça, j'aurai, au lieu de faire... Et bien, simplement parce que aujourd'hui, on est installé dans un système qui consiste à se dire « j'ai quelque chose, il ne faut surtout pas que je le perde ». D'accord ? Alors, si je me mets à être autonome, je vais perdre ma place là où je suis. Et c'est foutu. Eh bien, on s'est rendu compte qu'un élément extrêmement important est à construire, c'est le droit au retour. Parce que si vous voulez, demain, évaluer quelqu'un pour lui permettre de s'auto-évaluer et de construire, et il faut que vous lui promettiez que si ça ne marche pas, si le déclencheur d'autonomie que vous allez être ne lui donne pas la possibilité de revenir là où il est, et vous vous apercevez que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce droit au retour dans une évaluation qui soit la plus forte possible dans un temps. Et je vous invite aussi à réfléchir à cette terrible impossibilité de faire bouger, et la mobilité est une source de extraordinaire d'autonomie. Il faut que nous arrivions à apporter avec cette évaluation, je pense particulièrement au travail qui est fait avec les patients ressources dans les maladies psychiques. Les maladies psychiques, un jour ça va, le lendemain ça va plus. Un jour ça va, le lendemain ça va plus. L'un jour ça va, et on ne sait pas comment se comporter. On ne sait pas, on a... Et il n'y a pas ce moteur qui va faire qu'on va évaluer les risques. On va évaluer avec la personne. Et l'on va travailler par anticipation pour éviter d'abandonner un médicament dans le secret qui détruit tout après un confort qui est en fait très éphémère. Évaluer, c'est la certitude que lorsque l'on est accompagné, on peut être responsabilisé parce que on sera associé et ainsi valorisé. Fort de ces cinq, nous proposons dans ce livre des choses assez simples. La première chose, nous voulons que, en France, on ait un geste fort et que l'on permette aux personnes vivant avec un handicap d'être les acteurs de leur destin. Et nous avons proposé un mot qui n'a rien à voir avec le salon des arts ménagers. Nous avons proposé le mot des autonomiseurs. Un autonomiseur, c'est un ambassadeur du handicap dans le monde de tous. L'autonomiseur, c'est quelqu'un dont on a besoin. Et nous sommes en train de lancer, et je sais qu'à Lyon aussi, nous avons démarré bientôt. Les autonomiseurs sont des personnes qui vont aider les collectivités territoriales, qu'ils vont apporter leur expertise et leur expérience conjuguée pour permettre à une entreprise et à une grande chaîne d'hypermarché qui a embauché des autonomiseurs pour accueillir les personnes et permettre. Et ces autonomiseurs sont des personnes vivant avec un handicap. Et on est en train de créer cette école. Et nous avons considéré qu'en France, il nous faudrait un autonomiseur pour 20 000 habitants. Et il faudrait donc 3 250 autonomiseurs en France pour permettre à notre... On les a très largement et ça ne serait pas un très gros effort pour notre État parce qu'ils sont déjà pour 80% d'entre eux subventionnés à 90%. La deuxième, c'est faire évoluer considérablement le problème de nos amis des MDPH, un métier très difficile. Un métier très difficile avec la clé de voûte mise à l'envers, c'est où on dévalorise les personnes, vous comprenez ? Ben oui, ça peut, c'est difficilement... On a pris l'habitude de simplement... On a pris l'habitude tout simplement de recevoir des gens quand on les reçoit, ou recevoir son dossier, d'évaluer et d'orienter. C'est pas ça le métier. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui est écrit dans la loi de 2005. Alors, j'ai rencontré nombreuses personnes qui travaillent dans les maisons départementales du handicap et nous voudrions les aider. Les médecins me disent, vous comprenez, moi j'ai un dossier fait par un médecin de famille. Comme je ne vois pas la personne, pourquoi voulez-vous que je dise non ? La CNSA nous disait que 86% des personnes vivant avec un handicap aidées par ne sont pas vues. Pas pour les cas les plus graves, malheureusement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mes deux enfants n'ont jamais été vus au bout de 33 ans. Nous proposons que les médecins soient aidés et que l'évaluation, le travail, soit dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que nous pensons être le bon sens ? Eh bien, donner envie à la personne de faire quelque chose. Ça peut être appelé un projet, mais il y a le projet de vie. Si je vous demandais d'écrire votre projet de vie, vous seriez bien ennuyé. Eh bien, là, tout simplement, avoir envie de quelque chose. J'ai envie de travailler, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être bénévole, j'ai envie de, comme Édouard, de travailler au restaurant du cœur. Et là, on a estimé qu'il nous fallait, pour faire ça, il nous fallait travailler avec des médecins qui accueilleraient, avec des gens de l'accompagnement, qui évalueraient, avec des gens de la domotique, qui investirait dans et avec des gens du social pour préparer et ouvrir les portes. Nous pensons qu'il faut alléger le système et le rendre plus simple. Le gros tuyau qui amène l'argent est divisé en 50 et nous pensons qu'il faudrait que nous passions d'un système qui ne soit pas la caisse primaire d'assurance maladie, mais d'un un truc plus simple, d'une caisse primaire d'assurance santé, ce qui permettrait de mettre l'accompagnement, la prévention, le soin et le prendre soin dans le même système. Et mon Dieu, ce que ça nous simplifierait la vie. Et là, je crois que les départements attendent ce moment où on simplifierait les problèmes. Nous avons besoin, et nous vous proposons aussi, que la maison départementale du handicap puisse être plus valorisée dans son métier et qu'elle soit le témoin des progrès de ce qu'elle va lancer. Et c'est pour ça que nous proposons qu'elle soit, devienne non pas la maison du handicap, mais tout bonnement la maison de l'accompagnement. Car elle pourrait permettre de construire cet espace administratif qui nous ouvrirait des portes vers une autonomie. Nous avons un énorme problème, c'est l'accessibilité. L'accessibilité en France, ça reste un problème. Je regardais cet après-midi les résultats des refus de soins et on s'est aperçu que les raisons de refus de soins, n'est-ce pas, Maxime ? C'est l'accessibilité pour 20%. Et c'est complètement aberrant. Et on s'est aperçu aussi que nous étions un rare pays à ne pas avoir d'école de l'accessibilité, de la domotique, de l'architecture et de l'urbanisme, du vivre ensemble. Et ça, c'est dommage. Il faut que nous avons besoin de 600 postes d'architectes domoticiens en France. Ça calmera les débats à l'Assemblée nationale sur l'accessibilité, n'est-ce pas, Jean-Louis ? Il faut aussi créer dans les bassins de vie ce que certains sont en train de lancer et après l'exemple du Metchinon, nous commençons à le voir naître. Il faut lancer les caps, les cités de l'autonomie et du partage. Il faut lancer cette notion de possibilité d'école de l'autonomie. Apprendre à gérer, avoir l'autorité de dire « Voilà, je veux que mon accompagne, que la personne qui m'accompagne fasse ça et je ne veux pas qu'elle décide à ma place. Je veux mettre ce chandail de cette couleur avec cette jupe et c'est à moi de décider. Je veux que vous m'emmeniez voir tel film. Je veux sortir ce soir. Je veux... » Le « je », c'est la liberté. Et pour ça, et ça se construit. Si nous transformons là où c'est possible, et pour le plus grand nombre, beaucoup d'établissements en école de l'autonomie. Je me rappelle avoir discuté avec certains amis sur la scène de l'Assemblée générale. N'est-ce pas ? Où on les avait mis au cœur et c'était leur fête, c'était leur possibilité et je pense que leur envie d'être autonome et leur valorisation. Nous devons aussi faire évoluer le métier des accompagnants. Et là, nous avons besoin d'un gros travail. Car c'est très difficile d'avoir un travail aussi important que celui d'un AMP, d'un éducateur, d'un moniteur éducateur, sans être suffisamment valorisé. Avec Dominique Fiard, à Niort, nous avons fait une forme de conférences avec les gens les plus modestes, ceux qui vivent le plus longtemps possible avec nos enfants, les personnes qui sont au quotidien avec eux, qui donnent à manger, la toilette, tous ces gens-là, on ne les écoute pas assez. C'est eux qui sont des donneurs d'envie, parce que eux, ils ne peuvent pas travailler sans donner de l'autonomie à nos enfants. Moi, j'ai vu Clément tendre son bras pour qu'on nous passe une manche J'ai vu Clément apprendre à se tenir debout devant un lavabo pour un change. Je crois que tout ça, c'est possible grâce à ces personnes. Il faut les écouter et il faut les entendre. Il faut les faire participer. Il faut les associer aux victoires de la quête de l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent au quotidien. C'est le seul moyen de valoriser leur métier. Et là, nous avons un énorme travail à faire parce que, de temps en temps, les consignes ont du mal à aller jusqu'au bout. Enfin, je pense que nous sommes aussi un tout petit peu ennuyés par nos lois. Et ça, c'est dommage. Parce que lorsque la loi devient un obstacle à l'autonomie, on est en train de faire des bêtises. Alors, je ne sais pas comment on fait pour enlever une loi ou faut créer des lois Kleenex, je ne sais pas, qui se jettent le jour où on n'en a plus besoin. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Nous allons avoir un débat dans pas trop longtemps avec l'Assemblée nationale dès le mois de mars prochain, avec de nouvelles équipes, pour parler de la valorisation et des lois qui sont aujourd'hui un obstacle à l'autonomie. Et il y en a. Il y a des lois qui discriminent, et nous avons vu des articles dans la Sécurité sociale qui sont épouvantables. Je me demande comment on peut écrire et décider qu'une personne qui a une trisomie 21 et qui a un cancer d'un testicule, eh ben, on enlève les deux, comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est écrit sur le papier. Mais celui qui a écrit ça, je ne sais pas où il avait la tête. C'est dommage, hein ? Donc il nous faudrait, et je le proposerai encore, et c'est un défenseur de l'autonomie. L'idée a fait son chemin puisque Paul Christophe, éminent collègue, est en train de le proposer à l'Assemblée nationale et nous en sommes à l'écriture de ce texte qui serait une proposition de loi qui permettrait à quelqu'un fort de l'expertise et de l'écoute qu'il aurait avec le maximum de personnes vivant avec un handicap, la possibilité de simplifier et de ne pas créer de loi ou d'enlever les lois qui sont un obstacle à l'autonomie de nos enfants. Le livre « Liberté, égalité, autonomie » n'est qu'une toute petite phrase qui devrait essayer, grâce au témoignage de chacun, nous permettre de réfléchir et d'aller plus loin pour devenir un pays avec une société accueillante et accompagnante. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui aspirent et pour lequel, aujourd'hui, il faut que nous leur donnions leur place. Il faut que nous soyons à leur écoute. Il faut qu'ils trouvent en nous, et tout particulièrement dans une salle comme celle d'une mairie qui est une collectivité territoriale, que se dire « là, je suis bien parce que je suis dans la vraie vie ». Merci Thérèse. Merci à vous. Si vous avez une question. Monsieur, on va vous apporter le micro. On s'approche de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter au moment où vous
Oui, volontiers. Je m'appelle Olivier Joséphine, j'ai 43 ans. Et en effet, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la première, c'est celle-ci. Vous avez parlé de devenir autonomiseur. Mais savez-vous combien d'années d'études faut-il avoir pour avoir ce métier-là ?
Je vais répondre tout de suite à cette question. Il faut d'abord en avoir envie. Il faut être une personne vivant avec un handicap. Il faut accepter 240 heures de formation qui sont momentanément faites à Lille, mais j'espère qu'il y aura des écoles d'autonomiseurs partout en France. Et c'est possible. Et il faudra que... Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il est nécessaire d'apporter à ces personnes la possibilité de dialoguer avec les entreprises qui vont les embaucher. Voilà. Et de connaître un tout petit peu mieux le milieu du travail. Par exemple, nous avons, et grâce à des personnes de la FHF, nous avons aujourd'hui des autonomiseurs qui accueillent les personnes vivant avec un handicap dans les hôpitaux. Eh bien, ils ont eu une formation pour comprendre comment ils allaient accueillir les personnes et comment les orienter. Eh bien, je vais vous dire, ça se passe... Ils comprennent très bien la personne qui rentre dans l'hôpital et ils sont tout à fait capables de les orienter et de leur expliquer. Et surtout, ils sont un lien avec le soignant qui est absolument fantastique.
Et pour être autonomiseur, faut-il impérativement voir 10 sur 10 ou cela n'a rien à voir ?
Je pense que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que le 10 sur 10, il faudrait que ça soit une envie de 10 sur 10. Il faudrait faire de l'autonomiseur un passionné de l'accessibilité, parce que dans les collectivités territoriales du Nord, par exemple, c'est eux qui testent tous les lieux pour savoir s'ils sont accessibles. Vous voyez que ce n'est pas un problème de notes.
Et enfin, troisième question. Vous parliez de l'accès aux soins. Vous dites qu'il faut être acteur de ses soins ou de son soin.
Oui.
J'ai moi-même vu des reportages où il y a des personnes sont comment dirais-je hospitalisées à la demande d'un tiers. Mais qu'en est-il de ces personnes-là ?
Vous avez parfaitement raison. C'est une question très difficile. Et nous avons rencontré de nombreux parents qui étaient au bout et d'un système qui faisait qu'ils n'arrivaient pas et à la demande d'un tiers. Peut-être que nous n'avons pas été suffisamment présents pour accompagner la famille. Quand vous avez derrière vous une personne qui s'appelle Henri Rohan-Chabot qui a France Répit, c'est une des premières réponses. C'est une des premières réponses, c'est de permettre aux personnes qui accompagnent, permettre aux personnes qui vivent avec un handicap d'avoir une répit. Tout le monde est à l'école de la vie et tout le monde a besoin de vacances. C'est ce qui permet d'éviter très souvent des hospitalisations parce qu'on ne peut plus faire autrement. Et je suis d'accord avec vous et il faut peut-être anticiper. Et nous avons un très gros travail à faire. Je pense que le répit est une des portes qui va faire qu'on arrivera plus à gérer les choses. Je pense aussi qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions que la contrainte. Et je sais qu'aujourd'hui, on progresse bien dans ce domaine. N'est-ce pas, Henri ?
Je vous remercie.
Bonjour, je m'appelle Anne. Je souhaiterais savoir si votre livre serait accessible pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, soit au format braille ou au format sur CD audio.
Alors, je dois vous avouer qu'il n'est pas en format braille, parce que d'abord, ça coûte très cher et que nous ne l'avons pas fait. Par contre, l'année prochaine, il n'est sorti qu'en avril. Et il m'a été proposé par une personne que je connais bien, puisque c'est ma fille qui fait du théâtre et qui a décidé de le lire pour que nous puissions l'avoir en audio.
Et sinon, moi, je voudrais quand même vous faire part d'une affirmation, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'emploi des personnes handicapées. Et s'il faut savoir que moi, il y a quelques années, bon, ça fait 4 ans que j'habite à Lyon, je travaille dans une entreprise de services d'aide pour le travail, mais avant, je cherchais un travail dans le milieu ordinaire. Et les pôles emploi, donc, les Cap emploi, qui sont les pôles emploi, on va dire, pour les personnes valides, franchement, manque de sensibilisation au handicap. Et c'est vrai que là, on aurait quand même du travail à faire aussi, parce que pour aider ces personnes handicapées, là non plus, c'est un peu comme pour la MDPH, c'est vraiment pas évident, quoi. Il manque de formation.
Vous avez, je vais reprendre votre premier mot qui, à mon avis, est le meilleur. Il faut sensibiliser. Et je vous propose, et je pense que OVE, et vous pourriez faire une diffusion plus large du film qui a été fait sur la formation des médecins. On s'est rendu compte que former les personnes qui ne sont pas sensibilisées, ça ne marchait pas. Il faut sensibiliser d'abord. Et c'est la raison pour laquelle, dans le monde du soin, nous avons créé ce stage qui va permettre de valider les examens de deuxième année de médecine. Eh bien, dans le monde d'emploi, alors, je ne sais pas si votre région a suivi l'exemple de ce qui se passe actuellement en Aquitaine, où on a formé et sensibilisé au handicap, c'est-à-dire qu'on a tous les gens de Pôle emploi vont travailler pendant une semaine dans les ESAT pour rencontrer des personnes vivantes et ça leur a changé complètement leur vision des choses. Et je pense que ce n'est pas moi qui vais pouvoir former des personnes de Pôle emploi, c'est la rencontre extraordinaire de personnes vivant avec un handicap dans la réalité de leur propre métier. Cette rencontre a enrichi leur métier et a non seulement servi leur métier pour les personnes vivant avec un handicap, mais pour tout le monde. D'accord. Voilà.
Merci. Je ne sais pas à qui je passe le micro.
Ah, voilà. Une autre question ? Peut-être que Henri veut dire un mot sur le répit, où on en est ?
Merci, cher Pascal, d'évoquer ce sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé avec nous et avec la Fondation OVE. Non, simplement pour rappeler à vous tous que depuis plusieurs années, nous travaillons sur le projet d'ouvrir à Lyon une maison de répit qui permet aux familles, comme tu l'as très bien expliqué, de confier pour quelques jours ou quelques semaines un proche en situation de handicap ou malade. Et cette maison de répit a ouvert ses portes à Tassin il y a quelques jours à peine, et commence à accueillir ses premières familles. C'est une belle première initiative. On espère qu'elle sera suivie de beaucoup d'autres. Et le répit fait partie, comme tu le disais, de ce soutien, de cet accompagnement nécessaire des familles.
Ah, voilà.
Oui, bonsoir, Karine Ouanessian, je suis la secrétaire du bureau de l'ALGED. Je voulais rebondir sur le répit, justement, parce que pour répondre à la première personne qui est intervenue tout à l'heure, il faut savoir que l'hospitalisation des gens, ce n'est pas forcément la meilleure formule, ça peut être traumatisant. Et il est bon de se renseigner auprès de la MDPH, par exemple, qui peut donner des adresses concernant, par exemple, à l'ALGED, notre association lyonnaise de gestion d'établissements pour déficients. On a un accueil qui s'appelle le SAT, Service d'accueil temporaire, où effectivement des gens sont accueillis pour soit dans l'urgence, soit à la demande des parents. Alors il y a des listes d'attente évidemment, mais c'est une formule qui peut être moins traumatisante aussi, voilà, et plus adaptée à la pathologie de la personne. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Merci beaucoup. Non, par rapport à ce que j'ai entendu pour la dame qui pose la question de pouvoir lire ton livre, dans les bibliothèques municipales de Lyon, et il y a quand même une quinzaine de bibliothèques, ça n'est pas rien, il y a des matériels qui permettent de passer le livre dans des appareils et qui vous permettent de lire le livre. Voilà. Donc, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de... Il y a des matériels très, très variés dans les bibliothèques qui permettent à des personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes d'accéder à la lecture. Et puis, bon, bien sûr, ensuite, il y a des associations ou les bibliothèques même qui lisent les livres audio, qui les envoient par CD, etc. Sur la question de la loi... Pascal Jacob critique des aspects des lois. Moi, je suis d'accord qu'il faut améliorer les lois, mais surtout pas les supprimer. Moi, en tant qu'adjointe au maire de Lyon, je me félicite tous les jours qu'il y ait des lois qui existent, parce que ça me permet de dire il y a la loi, il faut appliquer ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, certes, la loi doit être améliorée, mais franchement, le fait qu'on ait des lois, que dans la loi 2005, on reconnaisse le handicap psychique, que récemment, il y a eu ce décret sur les ADAP pour l'agenda d'accessibilité programmée, c'est ça qui a déclenché qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus en ordre de bataille qu'auparavant. Donc, qu'on améliore des aspects négatifs des lois, j'en suis d'accord, mais vive la loi, je peux vous le dire. Hein, dans la vie quotidienne d'une élue comme moi, vive la loi.
Voilà. Je te rejoins sur ça. Simplement, il y a des endroits où elle devient réellement un obstacle.
Oui.
Et je pense que le jour où nous aurons inversé cette clé de voûte, qui est la dévalorisation par rapport à la valorisation, nous changerons considérablement le regard et le travail que l'on va faire. Et on va valoriser.
Et ensuite, sur les MDPA, je voulais juste redire ça. Moi, qui préside la MDMPH, j'ai d'abord découvert qu'il y avait des gens qui étaient vraiment top niveau, que j'admire, je ne peux pas dire autre chose, qui connaissent à un point que vous n'imaginez pas, les établissements, toutes les ficelles pour aider les gens, les différents handicaps, etc. Bon, voilà, ça existe. Ce qui existe aussi, ce qu'il faut savoir, c'est la question piège que je pose souvent aux gens quand on parle des MDPH, c'est que combien est-ce que de dossiers un salarié de MDPH a à traiter ? Question, réponse, 1500. En moyenne, 1500. Parce que les gens, ils me répondent dans ce cas-là, 300 en se disant, ça va être beaucoup. Non, 1500. Donc, parfois, il y a des erreurs, mais en gros, quand même, dans l'écrasante majorité des cas, ça marche. Bon, même s'il peut y avoir des erreurs quand vous traitez 1500 dossiers. Et dernière chose, ces personnes, elles sont classées dans la fonction publique catégorie C. Ça me choque énormément. Moi, je pense qu'elles méritent catégorie B, je vous le dis. Parce qu'il faut connaître les lois, il faut savoir bien écrire, faire des rapports, plancher en CDA, savoir accueillir les gens avec humanité, savoir leur répondre, enfin vous voyez, savoir les aiguiller et tout ça, et savoir qu'ils sont en catégorie C. Quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup choquée, je vous le dis. Il devrait avoir le niveau B, c'est-à-dire être mieux payé, être mieux considéré, etc., etc. Donc il y a une partie des insuffisances des MDPH qui ne tient pas 100%, pas du tout, au personnel, vous voyez. Non, mais je le dis aussi pour le dire comme ça, parce que je l'ai découvert. Moi, j'ai été adjointe de 2008 à 2014 sans être en MDPH. Donc de loin, je voyais des choses. Maintenant que je suis dedans, j'en découvre, et parfois, je suis quand même ahurie de la façon dont ça fonctionne et des insuffisances qui ne sont pas la faute des salariés. Mais je cherche à le dire comme ça, pas pour toi, Pascal, mais d'une façon générale par rapport à ce qu'on peut entendre.
Michel, on va parler. Il y a madame. Je voudrais répondre à Thérèse d'abord sur ça. Je pense que si nous valorisions les métiers autour du handicap, on valorisera la personne. Et c'est par ça qu'il va falloir que nous commencions, et par les niveaux les plus bas. Et il va falloir, en les valorisant, redonner à ces métiers toute la noblesse qui est celle de l'école de l'autonomie. Parce que s'il y a une difficulté à comprendre le handicap, c'est celui où n'apparaît pas la capacité de progrès. Le progrès, c'est ce qui valorise un métier. Et je pense que le progrès que l'on va apporter à ça va être quelque chose qui va valoriser. Sensibilisons, travaillons ensemble pour que ça, ça soit vrai et aidons que les lois partent du bon côté pour que, au lieu de l'autre.
Alors d'abord, moi, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier de la manière dont vous avez fait évoluer, en tout cas, mon approche de la notion d'autonomie. Pendant toute votre intervention, je repensais à une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je traversais la gare Lapardieu. Vous savez qu'elle est en plein de travaux. C'est très compliqué de circuler dans cette gare. Et j'ai croisé un monsieur très, très âgé, en fauteuil roulant. Et manifestement, il n'arrivait pas à avancer. Alors, je lui ai proposé mon aide. Il l'acceptait bien volontiers. Et finalement, cheminant, je l'ai raccompagné dans une institution qui est une association qui dépend des petits frères des pauvres. Et pendant tout le trajet, j'étais furieuse. Je me disais, mais enfin, comment on peut laisser une personne âgée comme ça circuler ? Comment peut-on la laisser dans la ville sans l'aider ? On est arrivé là-bas et je suis entrée dans la structure et j'ai dit, je m'en suis pris au personnel. Et le personnel m'a dit, mais enfin, madame, c'est lui qui veut sortir. C'est lui qui veut aller circuler. On ne peut pas le retenir. Et en ressortant, j'ai dit, je ne devrais pas m'insurger que ce monsieur circule dans la ville. Je devrais dire, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, une fois par mois, pour aller dans cette institution et dire, je propose mon aide pour l'accompagner, puisqu'il a envie d'aller se balader en ville quand il fait beau, même s'il a plus de 90 ans et même s'il est lourdement handicapé. Donc, tout ce que vous avez dit m'a renvoyé à cette histoire très récente. Ensuite, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que, et là, c'est ma casquette défenseur des droits, vous me le pardonnerez, j'interviens beaucoup, moi, auprès d'institutions sociales, médico-sociales, y compris parce que dans mon histoire personnelle, j'ai une énorme tendresse et une énorme amitié pour les travailleurs sociaux. Et je constate qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup aux droits. C'est-à-dire, le droit s'intéresse beaucoup à eux, mais eux ne s'intéressent pas beaucoup aux droits. Ce que vous disiez sur l'autonomie, moi, ça m'a renvoyé à une intervention récente où j'expliquais ce que c'était la Convention internationale des droits de l'enfant et les droits de l'enfant en situation de handicap, où je leur disais, mais vous savez qu'un enfant, même handicapé, il a le droit de choisir, il a le droit d'exprimer ce qu'il souhaite, et c'est écrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, moi, je plaide pour que les professionnels du soin, les professionnels de la santé, se réapproprient le droit. Le droit, c'est une matière trop importante pour qu'on la laisse aux seuls juristes. Il faut que dans ces métiers, dans nos métiers, on se forme aux droits fondamentaux des personnes. Moi, j'ai l'habitude de dire en situation de handicap, mais je pense que je vais adopter votre formule, les personnes qui vivent avec un handicap.
Merci, votre témoignage est brillant. Et ça me rassure, d'autant plus, il y a une question ici, et je voudrais vous dire, en effet, c'est toute notre société. Il n'y a pas de solution dans le monde du handicap qui ne soit que dans le monde du handicap. C'est la société tout entière, y compris le handicap. C'est pas Jean-Baptiste qui me dira le contraire. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Et parce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité, c'est dans l'humanité qu'on y trouvera le plus grand bonheur de vivre ensemble.
Oui, moi, je voulais simplement réagir à ce que tu as dit sur la... parlons de Lyon, puisque c'est la MDMPH. Je pense que je suis à la commission exécutive. Donc, je vois bien le... Je pense que tu n'as pas voulu, offenser les personnes qui y travaillent, bien au contraire. Non, mais il faut que ça soit clair. C'est-à-dire qu'on ne critique pas le travail qui est fait. Hein. Je pense que, comme le disait Madame Robatel, je pense qu'il y a des gens compétents. Mais moi, je pense profondément, comme toi, qu'il faut les faire travailler autrement. Il faut les faire travailler autrement dans le sens que tu as donné. Et surtout, je pense qu'il y a, pour l'égalité, l'équité sur le plan national, il y a des barèmes qui ont été mis en place. Peu importe, là, on peut en discuter, mais il faut que ces barèmes... Je veux dire que ces barèmes n'ont pas à être locaux. Il faut qu'il y ait une unité nationale, les droits des personnes, vivant avec un handicap doit être le même sur tout le territoire national. Et là, déjà, je pense que les départements seraient sans doute, je dirais, déchargés d'un certain poids. Il faut que, moi, le travail qu'il faut faire, c'est de mailler le territoire pour, je dirais, avoir des travailler l'autonomie des personnes vivant avec un handicap. Je crois que ça, c'est la mission. La mission donnée au début du guichet unique est un peu, je dirais, on s'est peut-être un peu trompé, mais collectivement, hein, voilà.
Michel, tu as non seulement raison, mais ce que tu dis est très fort. D'abord parce que, en effet, nous avons besoin, les uns et les autres, et les directives qui ont été passées, les circulaires et tout ça, nous pouvons les faire évoluer. Mais il faut les faire évoluer d'en haut jusqu'en bas, et d'en bas jusqu'en haut, et en écoutant la personne pour laquelle on agit. Ça, c'est essentiel. Personnellement, j'ai compris que dans les pays, nous sommes 12 pays qui travaillons avec en didactique, dans les pays où j'ai eu la chance de pouvoir vivre, je me suis rendu compte que l'autonomie et la richesse que ça apportait étaient un bon moyen de valoriser tous ceux qui travaillaient pour. Vous voyez ? Et lorsque l'on arrivera à emmener les équipes formidables qui sont demandeurs. J'ai fait une réunion de, je crois, on était 17 maisons départementales du handicap. On était presque une centaine dans une MDPH. Et on s'est dit, quels sont les premiers progrès ? Et à chaque fois, on trouvait des écueils qui étaient celui du haut, notre clé de voûte. Alors, je disais, mais non, là, on repart d'un système qui n'est pas le bon. Et je pense qu'il faut que vous nous aidiez tous, les uns et les autres, à partir de, si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est la demande des personnes elles-mêmes, qu'on valorise la personne, on l'accompagne, et bien sûr, il y aura toujours ce problème qui va être, ce n'est pas la maison départementale du handicap qui va accompagner, mais il faut qu'elle permette l'accompagnement pour que la personne réussisse son propre projet. Vous allez être des acteurs, comme le soin et le prendre soin, dans le domaine du social, de la personne. Et ça, c'est un accompagnement extrêmement riche et valorisant pour toutes les équipes. Ce n'est pas un dossier, c'est une personne. Autre question ? Madame.
Bonsoir Valérie, je suis malentendante et devenue sourde, donc pas nécessairement une question, plus un témoignage concernant le concept d'autonomiseur. Je n'ai peut-être pas très bien saisi les tenants et les aboutissants, mais bon, c'est pas grave, hein, je lirai votre livre, je comprendrai un petit peu mieux. En fait, j'allais dire, je travaille, hein, donc j'ai connu je dirais entre guillemets, les mêmes déboires que madame concernant la recherche d'emploi, les visites à Cap Emploi, etc. Je dirais que ce que je trouve dommage dans la société française, c'est qu'il n'y ait pas plus de travail ensemble, parce que je suis impliquée au niveau associatif et je me rends compte que tous, on essaie de faire avancer les choses, hein, parce qu'il faut bien. Il faut quand même qu'on se batte tous les jours pour que les choses soient l'autonomie, notre autonomie soit prise en compte. Et je trouve qu'il y a une débauche d'énergie. Et moi, en tant que salariée, je suis sollicitée pour aller dans des commissions. Mais je travaille, c'est pendant mes heures de travail, je ne peux pas y aller. Aussi bien au ministère, je ne peux pas y aller. Et pourtant, si je n'y vais pas, enfin, quand je dis « je », ce n'est pas seulement moi, c'est aussi les adhérents d'associations. Et si on ne peut pas y aller, ben on est un peu laissé pour compte. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, avoir une sorte d'endroit, de lieu, où on puisse déposer un petit peu, entre guillemets, des process qui marchent, Parce que j'avoue que j'en ai un peu marre de toujours expliquer qu'est-ce que c'est mon handicap, qu'est-ce que ça implique dans ma vie. Tous les 5 ans, je dois faire un dossier pour prouver que je suis toujours handicapée, enfin, que je vis avec mon handicap, que je suis toujours sourde. C'est, au bout d'un moment, j'avoue que c'est hyper usant. C'est vraiment très usant. Et d'un autre côté, quand j'ai eu la chance de croiser des personnes qui travaillent dans des services, je dirais pas sociaux, mais pour les personnes vivant avec un handicap, je pense qu'il y a... Est-ce que parmi les salariés, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec un handicap ? Ben, j'en vois pas. Alors, c'est vrai qu'effectivement, 80% des handicaps ne se voient pas. Donc... Voilà, je ne vais pas demander à chaque fois si la personne a un handicap ou non. Mais voilà, je me dis quelque part, à un moment donné, on n'est pas visible dans la société, pas visible dans le sens... Pas visible, voilà, on peut donner des conseils, on peut apporter, comment on vit avec ce handicap. Je trouve qu'à force de créer des nouveaux métiers, ce type de métier, je trouve que quelque part, c'est un petit peu dommage. Mais après, je peux comprendre derrière que ça puisse faire avancer les choses. Mais parfois, j'ai envie de dire quel gâchis, on perd beaucoup d'énergie. Et j'espère que je pourrai au moins, à un moment donné, me dire ouais, il y a des choses qui ont avancé. Parce qu'à titre personnel, c'est fatigant.
Comme je vous comprends, le nombre de fois où nous sommes amenés à parler de ce qui nous arrive, de ce que l'on dit. Mais moi, je ressens dans votre témoignage une très, très belle envie d'être. Ce que vous venez de dire est tellement fort, est tellement senti, on le sent bien, que vous êtes une personne au cœur de la vie qui a envie d'être autonome, qui a envie d'être valorisée, d'être associée, d'être responsabilisée, d'être évaluée et d'être accompagnée. C'est ça la vraie route. Vous venez de dire exactement ça. Et merci, votre témoignage. Nous avons à vous écouter et j'ai besoin de vous entendre. Nous avons besoin de vous entendre. Nous allons avoir besoin de votre parole, non pas uniquement pour vous entendre, pour être moteur d'un progrès extraordinaire de notre société, car c'est la vôtre. Jean-Pierre. Non, si vous voulez la question.
Oui, c'est pas une question, c'est 3 réactions. La première, c'est que je connais suffisamment Madame Rabatel pour penser que son lapsus n'était pas volontaire. Vous nous avez oublié tout à l'heure. La Fondation VE. Je crois pas. Mais je savais, madame, qu'on parlerait de nous après, donc je ne m'inquiétais pas. Mais simplement, je voulais le préciser. La deuxième chose, c'est que vous comprenez pourquoi nous sommes ravis de travailler avec Pascal, pourquoi nous sommes honorés. Je ne sais pas si tu es notre autonomiseur ou si c'est nous qui sommes le tien, mais en tout cas, on travaille bien ensemble et avec ta passion, ta forme, je m'en félicite, et la qualité de ce que tu nous as dit ce soir, on est reparti bourré à bloc. La troisième chose, c'est que tu as dit qu'il fallait qu'on communique plus sur ce que nous faisions. Ce qui est dans les tuyaux à l'heure actuelle, et avec toi en particulier, c'est de travailler sur la formation des médecins. Vous savez que ça prendra du temps, non pas qu'ils soient réticents, mais comme la formation dure longtemps, les effets seront sensibles beaucoup plus tard. Il s'agit de que dans les études médicales, soit bien davantage pris en compte les handicapés, les personnes vivant avec les handicaps et tout ce que ça occasionne lorsqu'il y a une visite à l'hôpital, notamment à l'hôpital. Nous allons rencontrer prochainement le comité, la coordination, comité de coordination des études médicales pour les unités, les facs de médecine de Lyon, il y en a 2, et de Saint-Étienne, en espérant faire inscrire des stages dans les établissements spécialisés, notamment, et autour des établissements, dans les équipes qui travaillent, pour qu'ils aient une meilleure connaissance des personnes vivant avec le handicap. Merci, Pascal. Je ne sais pas si c'est moi qui prends la parole en dernier. Si c'est le cas, je suis ravi de te dire qu'on est content chaque fois que tu viens à Lyon de te rencontrer et de travailler avec toi.
Merci. Je compte beaucoup. Bravo. Je voudrais te dire, d'abord, c'est très important et avec Jean-Louis est particulièrement soutenu avec Frédéric Valtou et Zeynab Ried, nous avons un très gros travail à faire sur la formation et la sensibilisation. Cette sensibilisation ne s'arrête pas aux soins et prendre soin. Elle doit aller beaucoup plus loin. Moi, j'ai pensé, et je vous invite beaucoup, à ce qu'il y ait un ESAT à l'École nationale d'administration, à l'ENA. Ça leur permettrait d'être en contact avec des personnes. Et lorsqu'ils reprendraient leurs fonctions, probablement qu'ils y penseraient un peu plus. Mais enfin, bon, ça sera un ESAT comme les autres. Hein. Enfin, voilà. Ce que je crois, tu as parfaitement raison, il faut qu'on s'y mette tous. Et il faut qu'on s'y mette avec l'appareil de départ. Il faut bien sûr s'occuper de la formation continue, mais de la formation initiale. Et ce que vous êtes en train de faire, ça veut dire que le médico-social de Lyon devra être une source d'accueil.
C'est vrai.
Et ça, ça a mis du temps. On a mis presque 6 mois à Reims pour accueillir, grosso modo, à peu près 200, Maxime, pour me tromper, 280 étudiants chaque semaine pour pouvoir avoir entre Nancy, Strasbourg, Reims, Chaumont et tout ça. C'est parti et le médico-social a été prêt et les a accueillis. Erdor, ce qui est d'extraordinaire, mieux encore, c'est qu'ils nous disent quand est-ce que les autres viennent.
Et ici, je crois que c'est 3000.
Oui. Voilà. Madame. On va essayer. Essayons. Vous avez une porte de sortie et un...
Je rejoins le témoignage de la dame, vous, parce que je suis moi-même sourde profonde depuis de naissance. J'ai travaillé à la Fontaine Seconde.
Vous parlez remarquablement comme madame. C'est extraordinaire et tout le monde vous entend et on ne peut que vous féliciter. Bravo.
J'ai travaillé à la Fondation Veu dans le dispositif d'identité et effectivement, je suis partie parce que c'est un combat très fatigant, très usant. Je rejoins aussi des ménages de la dame par rapport à la sordité. On a tendance à faire association à la déficience, alors qu'en fait, c'est une déficience auditive, mais pas une déficience intellectuelle, parce que j'ai été aussi postulée à Pôle emploi et Cap emploi. On m'a dirigée dans un des autres, donc ils avaient du mal à comprendre mon handicap. Et je pense qu'effectivement, ça manque beaucoup de sensibilisation, notamment sur la sordité, parce qu'on a tendance à croire que nous sommes des personnes sourdes et muettes. Et en fait, non. On a des capacités et on...
Formidable.
On peut parler ou pas, on peut parler en langue des signes. Moi, je suis entièrement bilingue, j'oralise, je parle en langue des signes. Mais j'ai envie aussi qu'on essaye d'ouvrir un peu ce monde des sourds. C'est vrai que c'est compliqué au niveau de la communication, mais je pense que c'est important de se pencher là-dessus. Par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le mot autonomisateur.
Autonomiseur. Ben, autonomisateur, ça voilà, fait un peu trop électroménager.
Et aussi penser à des personnes sourdes qui puissent s'intégrer parce que la sordité en France, elle est un peu mal vue. Et je voudrais savoir comment vous l'avez envisagé pour les personnes sourdes, par rapport aux interprétariats, par rapport aux personnes comme moi, oralisantes ou la dame qui est derrière moi.
Alors, je ne vais pas vous répondre avec la petite histoire que je vais vous raconter qui m'est arrivée dans ma vie, mais qui m'a énormément impressionné. Quand j'étais jeune et étudiant, pour gagner ma vie, je câblais les enregistrements de disques et pour la Deutsche Grammophon. Et il y avait un organiste qui s'appelait Helmut Walcha, qui était aveugle et qui enregistrait l'art de la fugue de Bach. Et aveugle, au bout de 10 jours d'enregistrement, on finit par sympathiser et je lui dis, Helmut, comment tu arrives à vivre avec ton handicap en étant sourd, en étant aveugle? Alors je lui dis, mais il me répond, mais toi, Quand tu regardes un oiseau, il vole. Toi, tu ne voles pas. Tu n'es pas pour autant handicapé. Et là, je dois vous dire que je me suis dit, il m'a dit, moi, je n'ai jamais vu. Donc, toute ma vie a été construite. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que votre surdité, votre difficulté de vie, aujourd'hui, est un exemple de compensation, de capacité. Moi, ce n'est pas une incapacité qui vous caractérise, c'est une capacité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le jour où on va parler de vous avec votre capacité, nous allons donner une chance énorme à la France de regarder tous nos concitoyens avec leurs différences comme une richesse. Je vous remercie infiniment. Merci, je suis très heureux d'avoir... Merci à Jean-Louis, à Thérèse, à OVE, à tout le monde. Merci. Je suis là si vous voulez que je dédicace le livre.